La vie commence à 45 ans, une émission d'Isabelle Plançon.
Écoutez l'histoire de femmes et d'hommes qui ont décidé de prendre leur vie en main après 45 ans. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup d'entre nous. En effet, souvent à cette période de notre vie, nous cherchons à investir dans un appartement ou dans une maison pour arrondir notre retraite. C'est aussi une période où, c'est pas pour tout le monde, mais très souvent, on refait sa vie et la question se pose d'acheter ensemble une maison aussi ou un appartement. Alors que peut-être nous avons des enfants d'un précédent mariage. Vers cet âge-là, hélas, nous héritons de nos parents qui sont peut-être décédés et nous allons acheter aussi avec cet argent pour encore investir pour nos vieux jours. Bref, c'est un sujet qui nous concerne et c'est un sujet d'actualité. Parce que si vous êtes comme moi, vous avez entendu dire qu'il y a une crise immobilière. Et moi, je me suis dit que ça nous concernait, j'allais inviter dans mon émission un spécialiste de l'immobilier. Un professionnel en la personne d'Alexandre. Bonjour Alexandre.
Bonjour Isabelle.
Alors, j'aimerais bien que tu te présentes pour nos auditeurs.
Alors, je m'appelle donc Alexandre, je dirige la société Flat in the City que j'ai lancée maintenant il y a un peu plus de 13 ans, qui est une société spécialisée en transactions immobilières et plus particulièrement sur la chasse ou la recherche d'appartements sur Paris et sa petite couronne. Et on est étendu maintenant depuis peu sur la Normandie. Voilà.
D'accord. Alors, ma première question, c'est est-ce qu'il y a vraiment une crise immobilière ?
Malheureusement, Isabelle, ça va être compliqué de te dire l'inverse, parce que oui, nous traversons des moments tumultueux actuellement dans l'immobilier. Et c'est en train de se démontrer par les chiffres, hein, puisque la FNAIM annonce déjà une baisse des ventes de 21% par rapport à l'année dernière, par
c'est
rapport
énorme.
À 2022. C'est énorme, c'est énorme. Ceci étant, on a absorbé pendant les premières années post-Covid, post-confinement, toutes ces ventes qui se sont faites, qui n'avaient pas pu se faire durant le confinement.
Oui, après le Covid, il y a eu une explosion.
Oui, absolument, hein. Parce que les gens se sont vite rattrapés, entre guillemets. Mais depuis, c'est une baisse, et une baisse certaine qui s'est accélérée à l'été dernier. Et on le voit, malheureusement, beaucoup de biens arrivent sur le marché parce que des gens doivent toujours vendre, mais beaucoup moins d'acquéreurs et qui s'explique par plusieurs phénomènes qu'on
parle. D'accord, ouais. Justement, je vais poser la question, pourquoi cette crise ?
Cette crise, elle s'explique par plusieurs choses. Déjà, le contexte international, hein, le contexte global. Nos concitoyens, c'est pas forcément la joie aujourd'hui pour acheter. Hein. C'est souvent un plaisir quand même d'un achat immobilier. Et ensuite, surtout, c'est la montée des taux.
Tu veux dire que c'est morose, l'ambiance est morose.
L'ambiance est morose.
D'accord. Hein, et du coup, quand l'ambiance est morose, les gens, ils achètent pas aussi facilement.
Moins. On est moins dans l'achat plaisir, hein, comme on a pu avoir pendant plus de 10 ans, là. Là, l'augmentation des taux, hein, il y a 2 ans, on pouvait avoir des taux à 0,95, 1%. Aujourd'hui, pour 20 ans, on est plus proche des 4,5, voire des 5%.
Ça a pris 5 points, 4 points en plus.
Absolument, absolument.
C'est
ça a
énorme.
Été quadruplé. C'est énorme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toute une frange de la population n'est plus solvable, ne peut plus acheter. Et même si vous êtes un jeune couple de cadres et que vous gagnez bien votre vie, le taux d'usure va vite vous rattraper, si je peux m'exprimer ainsi, et ne vous permettra pas d'emprunter.
Alors donc, il y a une question de problème géopolitique, on va dire, d'ambiance morose. Il y a aussi, tu me dis, un problème de taux d'intérêt qui ont augmenté.
Entre autres.
Et alors, est-ce que c'est le moment d'acheter ou de vendre? Est-ce que c'est le moment là, de faire quelque chose avec son bien?
Alors, Isabelle, de toute manière, il y aura toujours des gens qui ont besoin de vendre.
Oui.
Hein, ou voire d'acheter, hein, quand on peut, bien entendu. Ce sont des gens qui se séparent donc, ou des successions. Donc, il y aura toujours des appartements ou des maisons à vendre. Maintenant, effectivement, c'est les proportions qui sont beaucoup moins importantes. Et surtout, il faut, si on vend, il faut trouver un acquéreur. Et les acquéreurs, c'est la cible qui est la principalement touchée dû à l'augmentation des taux. Donc quelqu'un qui a le cash, entre guillemets, pour acheter, sera en position de force aujourd'hui. Alors que pendant des années, il était en position de faiblesse par rapport aux vendeurs.
Mais tu m'as dit qu'on était les rois du pétrole quand on avait du cash actuellement.
Et c'est vrai, on peut plus facilement négocier. Alors avant, on négociait paradoxalement, c'était même pas une baisse de prix, mais c'était d'avoir l'appartement, parce qu'il y avait peut-être 10 acquéreurs potentiels, j'exagère un peu, hein, 10 acquéreurs potentiels sur un appartement au même prix. Aujourd'hui, bah, il y en a deux fois, voire trois fois moins, quand il y a des acquéreurs potentiels.
Alors moi, justement, j'avais décidé d'investir dans un appartement dans le 10e arrondissement pour le faire. Bon, j'avais choisi cet arrondissement parce que c'était pas trop cher. Et en fait, je voulais prendre un appartement pour le louer, tu vois. Et est-ce que tu me conseilles de le faire ?
Alors, souvent, on a ce réflexe, ce de dire, on va acheter des appartements, un, deux, trois, peut-être, ça dépend des moyens des uns et des autres pour sa retraite, hein, mm-hmm. pour arrondir ses fins de mois quand on est à la retraite. Sauf qu'aujourd'hui, encore une fois, sauf à ce qu'on emprunte, est-ce que tu as la possibilité d'emprunter ou pas ? Donc ça, c'est le fameux taux d'usure oui. qui va rentrer en ligne de compte. Ou bien tu as le cash, mais ce n'est pas forcément la meilleure opération quand on est investisseur. Donc voilà, c'est ça qui va vraiment être pris en compte. Les prix restent malgré tout très chers aujourd'hui, ce qui fait que l'offre et la demande ne se rencontrent pas.
Tu veux dire que là, de toute façon, si j'ai besoin d'emprunter, en plus, moi j'ai 55 ans, je suis obligé de faire de pas aller au-delà en plus, parce qu'il y a aussi cette question-là.
Bien sûr.
Quand on a 55 ans, on ne peut pas emprunter sur 20 ans.
Bien entendu. Alors, non, généralement non. Voilà. Les banques ne sont pas prêteuses, même s'il y a des cas qui se présentent. C'est généralement des raisonnements, des réflexes qu'on a plus jeunes, hein, quand on a 30, 40 ans.
Donc, en fait, quel piège faut-il déjouer quand on achète un appartement ?
Bah, là, si tu me parles, toi, d'acheter dans le 10e à Paris, j'ai presque envie de dire aujourd'hui, je vais faire une grosse généralité, il ne faut pas forcément la prendre comme argent comptant, mais d'acheter un appartement à Paris, on va l'acheter très cher.
Alors, quel piège faut-il déjouer ?
Aujourd'hui, tu me parles d'acheter un appartement à Paris, je pourrais parler presque de la même chose à Bordeaux ou à Lyon, les prix restent quand même très élevés, mm-hmm. entre guillemets, encore une fois, par rapport aux capacités que peuvent avoir les acquéreurs aujourd'hui qui doivent emprunter. Il faudrait idéalement, c'est ce qu'on dit, encore une fois, je fais des grosses généralités, une baisse des prix de 15 à 20 points pour qu'on puisse acheter l'équivalent de ce qu'on pouvait acheter il y a 2 ans.
Voilà. C'est incroyable.
Ensuite, les pièges à éviter, entre guillemets, et là, je vais retourner sur Paris, mais Bordeaux également, ou le 93, ou Lille, etc., c'est qu'il y a l'encadrement des loyers.
Ah oui.
Donc, l'encadrement des loyers fait qu'on ne peut pas mettre le loyer qu'on veut, hein, il est, entre guillemets, targeté par la commune, et donc, forcément, bah, quand on va faire des gros travaux de rénovation, même si on peut les déduire fiscalement dans le cas d'un investissement, bah, forcément, ça va être un peu plus compliqué d'avoir une vraie rentabilité. Et rentre en ligne de compte aujourd'hui, et qui vient un peu le juge de paix, et notamment sur les petites surfaces qui sont les plus impactées, c'est le fameux diagnostic de performance énergétique.
Et c'est quoi ça ?
Le diagnostic de performance énergétique, ça fait partie des diagnostics qui ont été créés en 2006, qui sont obligatoires au moment d'une vente, hein, d'une mutation, que ça soit à l'achat ou en location. Et le fameux diagnostic de performance énergétique va te donner une lettre entre A et G.
D'accord.
En fonction de la performance énergétique, tout simplement, des lieux. Alors, jusqu'en juillet 2021, le calcul se faisait sur des factures, donc c'était assez simple, et donc pas du tout réaliste, pour être très franc. Mm-hmm. Et aujourd'hui, par contre, c'est un vrai logiciel qu'a mis en place le législateur, qui permet de vraiment mesurer les performances énergétiques de l'appartement, que ce soit l'isolation, que ce soit l'épaisseur des murs, les fenêtres, et ainsi de suite.
Et donc, il faut être à cette norme-là. Un appartement qu'on achète ou qu'on a, il faut qu'il soit... Il va avoir une note.
Absolument.
Hein, un peu comme le... Tu sais,
une machine à laver.
Le Nutri-Score, là. Enfin, il y a des Nutri-Score partout, maintenant.
Mais absolument. C'est exactement le même
normé,
concept.
Tout est normé. Clac, clac.
C'est exactement
truc
le même concept. Sauf que ce fameux Nutri-Score, on va dire, pour les appartements, mmh. eh ben, il a une vraie incidence. Parce que si tu achètes aujourd'hui un appartement qui est classé G, F, quoi. Bref, une passoire thermique, hein, qui représente pratiquement 7 millions de bâtiments en France.
C'est un... 7 millions
Oui, à peu près, oui.
C'est
on
fou.
Doit être à 6 aujourd'hui.
Ça veut dire 7 millions de propriétaires qui vont devoir faire des travaux dedans.
Absolument, absolument.
Mais l'État a prévu des aides pour
Alors,
tout ça.
Alors l'État a prévu des aides, ma prime Rénov', les primes CE, etc., le prêt à taux zéro. Maintenant, c'est aux conditions de vos revenus.
C'est sous condition de revenus.
C'est sous condition de revenus. Donc
d'accord.
Forcément,
Tu gagnes bien ta vie.
Si tu gagnes bien ta vie ou même moyennement ta vie, tu n'as pas besoin de gagner très bien ta vie, malheureusement, tu passes passe un peu entre les mailles du filet.
T'as aucune aide et tu es dans l'obligation de rénover l'appartement.
Bah oui, puisque la sanction suprême, c'est qu'en 2025, au 1er janvier 2025, les appartements classés G n'auront plus le droit d'être en location.
Donc, déjà, dans un an.
Dans un an. Absolument, 2028 pour les F et 2034 pour les E. Donc ce qui fait que concrètement, on est déjà que le marché locatif est extrêmement tendu. Aujourd'hui, on entend parler dans tous les médias. Oui. L'accession aux logements sociaux, ils n'ont jamais eu autant de demandes aujourd'hui, si vous voulez. Hein, et ça, c'est un vrai phénomène. En plus de ça, on va retirer des appartements à la location.
Donc, grosso modo, si on a acheté un appartement, je ne sais pas, moi, il y a 2 ans, ou admettons, il y a 5 ans, et qu'on a un petit étudiant dans son appartement, qu'on récupère peut-être entre 900 et 1000 euros.
Ça dépend de la surface.
Ça dépend de la surface, bon, des fois un petit peu moins, mais bon, c'est grosso modo ça à Paris. Finalement, on va devoir faire des travaux obligatoirement cette année. Et si on paye un crédit soi-même déjà sur l'appartement et qu'on se disait bah, « tiens, je vais récupérer peut-être 400 euros par mois », finalement, c'est peau de chagrin, il ne reste plus rien.
Absolument, c'est des calculs à faire, c'est de la pure rentabilité pour investisseurs. Aujourd'hui, il faut prendre ça en considération. Alors, ça peut paraître extrêmement dur, difficile. Maintenant, ça va dans le sens de l'histoire. Hein. On l'a bien vu avec les périodes de canicule qu'on a pu subir ou les périodes de grand froid. Hein. Je ne sais plus combien il y a de millions de Français qui ne se chauffent pas parce qu'ils n'ont plus les moyens. Hein.
Oui.
Donc, il est indispensable de rénover le bâti que nous avons, qui représente, je crois, à peu près 40 millions de bâtiments, tous bâtiments confondus, hein, avec le tertiaire et les collectivités. Donc voilà, c'est un vrai enjeu pour tout à chacun, dû à l'explosion notamment des énergies fossiles qui font que les factures à la fin du mois peuvent être terribles. Donc ça demande une réadaptation du bâtiment, des bâtiments, avec ce réchauffement climatique. Donc c'est de réadapter un peu les bâtiments en les rénovant. Voilà.
Ok. Écoute, c'est très très intéressant. On va faire une petite pause musicale. Moi, j'ai choisi Bon Entendeur. T'avais choisi autre chose.
Mais c'est ton choix.
J'ai choisi Bon Entendeur, Disco en Égypte. Petite page de pub. Alors nous revenons avec Alexandre pour parler immobilier. On a vu avec lui qu'il y avait une crise de l'immobilier, qu'il y avait les taux d'intérêt qui avaient monté, donc c'était beaucoup plus difficile d'obtenir un prêt, et en plus que les sommes empruntées ne sont plus en adéquation avec le prix du marché, c'est ça?
Absolument Isabelle, absolument.
Alors, tu nous as parlé aussi du diagnostic des PE, qu'on ne connaît pas tous. Hein. On a vu que dans peu de temps, les gens qui avaient un appartement
classé G,
eh bien, il fallait qu'ils fassent absolument des travaux, sinon ils ne pourraient plus le louer. Donc ça, c'était aussi très important. Mais est-ce qu'il y a une lueur d'espoir dans tout ça? Parce que moi, je trouve que c'est très compliqué finalement.
Oui, bien sûr, il y a une lueur d'espoir. On parle déjà que les taux ne vont pas continuer à grimper, voire peut-être baisseraient un petit peu. Donc déjà, ça, c'est une petite lueur d'espoir. Ensuite, bah forcément, les gens vont être obligés de vendre. Donc, mécaniquement, les prix vont baisser. Je pense que ça va continuer en 2024. Et ensuite, concernant le fameux diagnostic de performance énergétique, et Dieu sait si on en parle tout le temps, le fait est que les appartements les plus impactés sont les petites surfaces, les moins de 30 mètres carrés. Mmh. Et donc, on entend que, via les diagnostiqueurs, que le législateur assouplirait le mode de calcul ou le réétudierait pour les petites surfaces. Ce qui permettrait de pouvoir réinjecter un peu de ces appartements. Voilà, absolument. Et c'est indispensable, hein, puisque c'est vraiment les petites surfaces qui sont les plus impactées. Aujourd'hui.
Oui, parce que là, on a parlé aussi beaucoup de ventes, mais aussi en termes de location. Du coup, les gens, ils ne partent pas de logements où ils auraient dû acheter. Tu me disais, les primo-acquérants, ils devraient accéder à l'achat et puis ils ne peuvent pas.
Bah, le mécanisme, c'est que moi je prends le jeune couple, hein, c'est un exemple. Qui a 25 ans, qui a un boulot, qui a un CDI, qui gagne tout à fait correctement sa vie, il serait en droit d'acheter aujourd'hui, entre guillemets, parce que là, il est locataire. Bah, sauf qu'il ne le peut pas, avec le fameux taux d'usure dont on parlait tout à l'heure. Ce qui fait que les nouveaux entrants, c'est-à-dire ceux qui sont sortis des études et qui commencent leur vie professionnelle et qui veulent un appartement en location, bah, ils ne trouvent pas. Parce que les autres ne sont pas partis avant. Donc c'est toute une chaîne, finalement, qui est un peu bloquée aujourd'hui et qui, encore une fois, est renforcée, malheureusement, par ce fameux DPE.
On a une question d'un auditeur. Alors, il nous dit « J'ai divorcé et avec ma nouvelle compagne, nous voudrions acheter un appartement ensemble, mais nous avons des enfants de notre première union. Alors, que faut-il faire pour 1. Préserver les intérêts de ma compagne et 2. Les intérêts de nos enfants respectifs ?»
Alors, c'est une très bonne question. Alors, pour les enfants, bah, chaque couple, l'un et l'autre, de toute manière, les enfants hériteront directement. Mmh. Ensuite, effectivement, tout va dépendre si ce nouveau couple, ce nouvel amour, va se marier ou pas, donc avec un contrat de mariage qui pourra prendre en compte ça, notamment les acquisitions, que ce soit d'ailleurs...
des uns et des autres.
Uns et des autres. Est-ce que c'est dans la communauté de biens, etc. Mais j'ai envie de dire, sur ce type de questions, c'est vraiment un notaire qui est le mieux placé pour répondre à ça.
Oui.
Et je dirais, et c'est ce qu'on dit à nos clients justement, parce qu'on peut en avoir dans ce cas-là, jeune couple entre guillemets, plus de 50 ans, qui se remettent ensemble et qui veulent acheter, la première étape, c'est vraiment de passer avec le notaire pour mettre les choses le plus clairement possible, clarifier les choses d'emblée, que ce soit pour ce nouveau couple et que ce soit pour les enfants. Hein. Ils partiront, on parle de gros sous, mais au moins ils partiront sur de très bonnes bases et il n'y aura pas de surprise derrière. Et monsieur ou madame pourra protéger en cas de départ de l'un ou l'autre.
Oui, parce que ça peut faire des histoires pas possibles.
Oui, bien entendu. Oui.
En fait, on pense souvent qu'on est éternel, mais moi j'ai vu des cas dans ma propre famille où les enfants ont été floués après un remariage. Enfin bon, c'était
absolument.
Très très compliqué.
Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment border les choses dès le départ. Et ça, c'est le meilleur conseiller sera votre notaire.
Bon, merci beaucoup. Alors justement, pour finir, j'aimerais bien que tu nous expliques en quoi ton métier est indispensable à l'heure actuelle et aussi en quoi il consiste.
Alors, mon métier est indispensable, c'est une façon de parler, en tous les cas, puisque c'est un jeune métier, finalement, dans l'immobilier, puisqu'il est arrivé il y a une vingtaine d'années, hein, en provenance des États-Unis. Aujourd'hui, on est vraiment dans un rôle d'accompagnant de nos clients. Souvent, on a l'idée que le chasseur d'appartement, il va juste trouver la perle rare et voilà. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisqu'il y a vraiment une compréhension que nous devons avoir de nos clients, hein, de ce qu'ils veulent exactement. Mm-hmm. Et ça, c'est la clé de voûte pour aller chercher l'appartement derrière, ce qui fait qu'il ne visitera finalement très peu d'appartements, puisqu'on va écrémer pratiquement
94%. Oui, toi, tu fais le tri, quoi.
Absolument. Et on sait maintenant par expérience, hein, ça fait plus de 13 ans que nous faisons ça, qu'est-ce que veut le client qui est face à nous, hein, que ce soit un couple, que ce soit une personne seule, etc. Donc voilà. Donc ensuite, c'est de trouver l'appartement, de le négocier au mieux pour lui, mais tout en faisant en parallèle toute l'étude qu'il faut et qui est indispensable, qui est la copropriété. Est-ce qu'il y aura un ravalement qui va venir? Est-ce qu'une toiture, etc. Parce que ce sont vraiment des choses à prendre en compte dans un plan de financement d'acquisition d'un appartement. Et ensuite, il y a la rénovation en tant que telle de l'appartement, donc l'aménagement et autres. Donc ça, on va aider nos clients à se projeter dedans. Et aujourd'hui, on inclut effectivement la rénovation énergétique dans nos raisonnements. C'est-à-dire qu'on va faire un audit de rénovation pour dire à nos clients, bah voilà, si vous achetez cet appartement, il a telle lettre et vous voulez gagner en confort ou faire améliorer cette fameuse lettre, et bah voilà, il va falloir peut-être isoler l'ensemble des murs, changer le système de ventilation, etc., etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé, qu'on développe chez Flats & City par des formations, et notamment actuellement un de mes collaborateurs fait une formation en chef de projet en rénovation énergétique, parce que c'est devenu un peu la clé de voûte de l'immobilier, parce que ça a une incidence directe sur les gens, sur l'achat des gens et donc sur leurs sous.
Très bien. Et on peut vous joindre où alors, Flat in the City?
Alors, on a un site web, flatinthecity.fr, bien entendu.
Dans le 9e, de toute façon.
Oui. On est basé absolument dans le 9e arrondissement à Paris.
Très bien. Je te remercie beaucoup, Alexandre, pour toutes ces informations qui étaient passionnantes et très intéressantes pour nos auditeurs. Je vous remercie encore pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci, Isabelle, et au revoir.